Il arrive que l'on se pense faite pour une vie planifiée, un métier que l'on aime, où l'on se sent à sa place et que l'on veut faire toute sa vie. Et puis la vie nous réserve son lot de surprises et parfois ce que l'on croit être un détour devient une évidence. C'est ce qu'a découvert Sylvia en démarrant la négociation. Après un début de carrière 100% marketing, elle fait ses premiers pas en négociation et basculera tout entière dans ce métier-là. Ce monde qui vibre au fil des rendez-vous, parfois fracassants, ses moments de victoire et les heures de doute aussi. C'est avec beaucoup de joie et aussi un grand sérieux que Sylvia nous entraîne dans ce monde de négociation aux mille et une couleurs où les grands moments ne sont pas toujours ceux auxquels on pense. Bonne écoute. Bonjour Sylvia Bravard.
Bonjour Julie.
Je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode de ADN Stories, où l'idée c'est de découvrir les personnalités, les profils et les parcours des femmes et des hommes qui font ADN au quotidien. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en nous donnant ton prénom, ton nom, ta situation aujourd'hui, ce que tu as fait dans la vie, et puis ce qui t'anime au quotidien aujourd'hui, s'il te plaît.
Avec plaisir. Donc moi, je m'appelle Sylvia Bravard et je suis chez ADN. J'ai trois casquettes, disons. La première, je suis négociatrice professionnelle. Donc au quotidien, j'accompagne des négociations commerciales ou sociales. Ça veut dire que je vais chez des clients, les former, préparer avec eux les négociations, ce qu'on doit négocier, ce qu'on ne doit pas négocier. On prépare chaque rendez-vous, on fait des sketchs. Donc ça, c'est la partie assistance et formation à la négociation. Ensuite, j'ai une deuxième casquette. Je m'occupe de toute la relation aux entreprises chez ADN. Ça veut dire que je rencontre des entreprises qui ont des parcours à développer pour leurs collaborateurs, des assistances d'équipe, des assistances individuelles sur des cadres dirigeants. Et ensuite, ma troisième casquette, c'est que je suis en relation avec tous les experts d'ADN justement les mettre en relation avec les entreprises pour répondre à des besoins.
Donc un quotidien bien rempli, oui, de ce qu'on comprend. Et avant d'en arriver là, ton parcours à toi, c'est une vocation de bosser au commercial quand tu étais petite ou plutôt un parcours avec des méandres et des rencontres et des opportunités? Comment ça s'est passé? Raconte-nous.
Écoute, ça a été, plutôt des opportunités. Quand j'ai eu mon bac, j'aimais bien les maths et la bio, donc j'ai fait maths sup bio. Et puis, je suis rentrée dans une école d'ingénieur agroalimentaire. Et en troisième année d'école d'ingénieur, j'ai enfin compris ce que c'était ingénieur. Et je me suis dit, tiens, c'est pas ça que je veux faire.
tu te souviens, je fais une petite aparté sur ce qui t'a... Ce qui finalement, les signaux que tu as compris, où tu t'es dit ce ne sera pas pour moi, je ne me projette pas dans ces carrières-là, dans ces jobs-là?
En fait, j'ai fait une école d'agro spécialisée en nutrition. C'était un choix. Ça venait c'était une réflexion de mon père quand j'étais très jeune qui m'a dit bosse dans l'alimentaire, la bouffe, ça marchera toujours. Donc je me suis dit c'est pas bête.
Et métier
en fait,
de l'avenir.
J'ai bien aimé. Et en fait, j'ai découvert dans l'école d'ingénieur que soit j'allais être chercheur et que j'allais être un peu seule. J'ai fait un stage à l'INRA, par exemple, et j'allais être seule dans un labo et ça correspondait mais pas du tout à ma personnalité, donc je ne me suis pas projetée. Ou bien ingénieur dans une usine, manager des ouvriers sur ligne, sur des process industriels, etc. Et en fait, je me suis pas trop vu là-dedans. Et c'est juste que j'ai fait un stage en tant qu'ingénieur-chercheur, j'étais encore en école, chez Danone. Et en tant qu'ingénieur-chercheur, je travaillais avec le marketing. Et j'ai découvert une équipe qui disait cette année, on va bosser sur le kiwi, mais le pruneau marchera, mais pas avant 3-4 ans. Et je me suis dit, attends, c'est ça leur métier, là? On fait des réunions sympas, on boit des cafés et on se dit qu'est-ce qui va marcher dans 4 ans? Donc, ça m'a un peu intriguée et j'ai beaucoup bossé avec eux et je me suis dit, tiens, c'est exactement ça que je veux faire. Il me restait encore une année à faire en école d'ingénieur et je me suis dit que j'allais faire revenir chez Danone, mais au marketing. Mmh. Et ils m'ont dit, ça ne marche que si tu fais une école de commerce. Donc, j'ai fait une troisième spécialité dans une école de commerce, +6, sur le marketing cette fois. Et je suis donc revenue au sein du groupe Danone, mais au marketing.
Au marketing. Et là, c'était la révélation, l'épiphanie, tu étais à ta place et tu...
Écoute, j'ai adoré beaucoup de travail en équipe, beaucoup de travail avec des agences. Contrairement à ce qu'on pense, le marketing, ce n'est pas un métier de créatif. Le marketing fait bosser des créatifs, garant d'un planning, d'un budget, mais parle aussi avec des créatifs. Et donc, pour la blagounette, j'ai commencé sur de l'eau taille fine. Et donc, je pense qu'une fois que tu as vendu dans ta vie de l'eau taille fine, je pense que tu peux tout vendre. Et j'ai adoré l'équipe avec laquelle je suis toujours en contact, d'ailleurs. Je salue. Et du coup, j'ai vraiment aimé ces années-là au marketing. Et puis après, j'ai évolué au marketing. J'ai fait à peu près tous les postes jusqu'à une direction.
Alors, donc là, on est pour resituer un peu dans le courant des années 2000. Je pense à taille fine au
ça
sein
remonte,
du groupe Danone.
Ouais, ça remonte, Julie.
C'est
ouais.
ça. C'était pas pour souligner ça. Et alors, quand tu nous dis j'ai fait tous les postes, qu'est-ce qu'il y a comme métier dans le, tu vois, au sein d'une direction marketing sur lesquels on peut évoluer?
Alors, j'étais chef de produit à l'époque. Donc, je travaillais des innovations sur taille fine, par exemple. Donc, des eaux aromatisées, taille fine fraise, taille fine citron, pamplemousse. Et donc, là, c'est de travailler avec le développement produit pour faire les bons arômes, pour que ça ait bon goût. Ensuite avec le packaging pour faire les étiquettes, ensuite avec les agences de presse pour le lancement, les agences de pub pour les petites communications qu'on pouvait faire, puis des liens avec la supply chain, avec le commerce. Je crois qu'ils comprenaient rien quand même, les commerciaux à l'époque. Et puis voilà, j'ai été chef de produit senior. Après, j'ai changé de boîte. J'ai travaillé chez Marie, c'est des plats cuisinés.
Toujours l'agro.
Là, j'ai commencé à encadrer des gens. D'ailleurs, ma première stagiaire a un peu morflé, Solène.
Oui, parce que c'est un autre métier, en fait, en vrai, d'encadrer des équipes. On n'est plus du tout sur des compétences de cœur de métier, ouais. C'est pas la même expertise.
Exactement, j'ai développé du coup du management, tu vois, donc elle m'envoyait des mails très bien faits avec, pour des résultats d'études, les biais de l'étude, ce qu'on avait compris, et du coup je répondais trop long pas lu, et donc la pauvre ça lui est resté, donc je crois que maintenant elle est très synthétique. Solène.
Grand sens de la synthèse, Solène, on pense à toi si voilà. Tu nous écoutes.
Qui est un gros poste maintenant d'ailleurs, Solène. Et du coup... J'ai continué à évoluer, je suis devenue chef de groupe, donc là j'encadrais plusieurs équipes. J'ai encadré des cuisiniers chez Marie, et là je me suis pris les pieds dans le tapis sur le management, parce que moi j'avais l'habitude de bosser avec des marketeux, donc on regarde une presse, ça va pas, ça faut refaire, point barre.
De l'analyse plutôt
voilà,
froide.
Et puis tout le monde le prend plutôt bien, et puis là avec des cuisiniers, je faisais pareil sur leurs recettes de cuisine, sauf qu'eux ils l'avaient fait avec passion, avec cœur. Et donc, on ne débriefe pas quelqu'un qui travaille avec le cœur que quelqu'un qui travaille avec l'esprit,
la tête,
exactement. Et donc, au début, je crois qu'ils m'ont détestée jusqu'à ce que je comprenne ça. Et du coup, après, on s'est vraiment bien entendu. D'ailleurs, il y a plein de cuisiniers en te parlant que je revois et que j'embrasse. Et voilà. Et après, jusqu'à un poste où j'étais responsable du marketing pour toute la partie surgelée de Marie. Voilà, des années superbes, des gens avec qui j'ai collaboré, avec qui je suis toujours amie d'ailleurs. Et on a, sur la marque Marie, on a tout refait. On s'est dit, il faut tout changer. Ce qu'on appelle la plateforme de marque, l'ADN de la marque, la communication, les produits. Voilà, et donc ça nous a passionnés. C'était en 2007 qu'on a refait tout ça.
Alors je reviens, je fais un petit focus. Quand tu dis j'ai compris qu'un cuisinier ça se manageait pas comme un marketeux, tu te souviens ce qui t'a fait prendre conscience de ça? Parce que finalement, toi tu étais dans le boulot, orienté résultats et tout, tu vois, qu'est-ce qui, dans cette relation humaine là, tu t'es dit j'ai pas la bonne clé finalement, ça marche pas?
Écoute, je pense que dans mes qualités j'ai assez d'empathie et j'ai compris qu'il me détestait. Et donc pour moi c'est important quand même, et donc du coup je me disais pourquoi avec eux ça marche pas,
qu'est-ce qui se passe,
et en fait je me rendais compte que j'ai pour autre défaut d'être un peu pushy, d'être un peu bulldozer, tu vois, et en fait ils me voyaient comme un bulldozer, je les voyais, j'avais un quart d'heure, je disais bon ça va pas, voilà, et eux ils avaient mis ça avec du cœur, quoi. Et donc comment ça pouvait marcher? Mais j'ai aussi du cœur, et donc c'est là qu'on s'est connecté. Mais j'ai compris qu'en management, de toute façon, le management, on apprend toute sa vie. J'ai compris que je m'étais trompée avec eux. Et après, on a fait autrement.
Et ça, on va y venir tout à l'heure, mais grande leçon, j'imagine, pour la suite de ta carrière avec les métiers du commercial, où l'humain occupe une place quand même prépondérante
exactement,
dans ces métiers.
Je me suis quand même pris les pieds après, en passant au commercial.
Alors justement, transition parfaite. Donc là, on est au marketing. Marie, comment, de ce job-là, chef de groupe passionnant avec ses projets très stimulants, tu te retrouves à gérer un poste en négociation ?
Écoute, parce que depuis toute petite, on me disait quel est ton projet professionnel. Et donc, moi, je voulais être directrice marketing du Monde, tu vois, à peu près. Enfin, pas le journal, l'univers. C'était mon projet. J'adorais le marketing, vraiment, j'ai adoré. Et du coup, pour les ressources humaines, je voulais écrire sur mon CV au moins un an au commercial. Voilà. Pas plus d'un an, je voulais pas abîmer mon intellect, tu vois, je crois qu'il y avait des gros lourds.
Oui, donc tu avais quand même un a priori très fort sur ces métiers-là,
carrément,
et ce job-là, pas très.
Ouais, je trouvais que c'était assez terre à terre, tout était urgent, ils étaient toujours tournés vers le client, alors que le plus important c'était le consommateur final, bien sûr. Et donc, j'ai dit ouais, un an, pas plus, quoi. Et à cette époque-là, chez Marie, il y a eu pas mal de départs et un poste s'est libéré de grand compte face à la grande distribution. Donc, ça s'appelle Key Account Manager face à des clients, groupe Carrefour, groupe Auchan, groupe Casino. Et donc, je me suis retrouvée un petit peu projetée là. En gros, je redescendais des échelles hiérarchiques. Mmh. Tu vois, je manageais plus personne, j'étais compte-clé. Et dans un métier que je ne connaissais pas. Et avec beaucoup de départs à l'époque, donc un peu seule parfois sur certains sujets. Et en fait, j'ai eu un vrai choc les trois premiers mois parce que au marketing, moi, les agences de pub m'offraient des petits chocolats à Noël, du foie gras. On faisait des réunions, on avait tous nos grands thés et des chocolats. Et en fait, là, je rencontre pour la première fois des clients. Donc, mon premier contact, c'est une cliente qui m'appelle et elle me dit... bonjour, vous êtes la nouvelle compte-clé. Je dis oui, bonjour, justement, je voulais vous appeler. J'aimerais bien qu'on se rencontre pour faire connaissance. Et elle me répond, je n'ai rien à foutre. Est-ce que vous faites la remise commerciale sur la police savoyarde? Alors déjà, moi, je ne sais même pas de quoi elle parle. Remise commerciale, je dis, écoutez, je pense qu'on peut en discuter, on pourrait se voir. Elle dit, non, si vous oui ou non, si vous dites non, on n'en a rien à foutre. Alors, rappelez-moi dans une heure, elle raccroche. Voilà, ça, c'était mon premier contact avec un client.
Ok, baptême du feu, donc.
Donc là, je me suis dit, waouh, mais pourquoi j'ai fait cette connerie? Pourquoi je ne suis pas restée au marketing? Et en fait, j'ai découvert une relation commerciale qui est quand même réputée avec la grande distribution pour être un peu costaud.
Ouais.
Donc, pas mal de conflits, d'ultimatums, de menaces. Voilà, un univers parfois un peu sexiste. Hein. À l'époque, il y avait... Beaucoup de garçons dans les équipes, dont la vague de féminisme peut-être n'avait pas complètement atteint ses personnalités. Et écoute, passé ce choc des trois premiers mois, je me suis dit waouh, mais comment j'avais pu ignorer tout cet univers ? J'ai compris énormément de choses. Je me suis dit mais que j'avais passé ce début de carrière professionnelle en occultant totalement un pan de business. J'ai enfin compris pourquoi il fallait d'abord que ça plaise aux clients qui, eux, vont ensuite le distribuer aux consommateurs. J'ai adoré les commerciaux. Cet esprit d'équipe, on part un peu à la guerre, on va défendre notre business coûte que coûte. On prend des coups, mais on tient bon. Et du coup, j'ai adoré ça. J'ai plus jamais voulu retourner au marketing.
Et alors, quand cette fameuse cliente-là qui te fait vivre ton baptême du feu, voilà, t'accueille de manière un peu sèche, sans doute prise dans son flot du quotidien, tu vois, intérieurement pour toi, qui arrive du marketing dans un état d'esprit, de toute façon, je suis là qu'un an, j'ai rien à voir avec tout ça, tu vois, qu'est-ce qui se passe ? Tu vois, comment tu te sens, qu'est-ce que tu vas mobiliser en termes de...
Écoute, au début, c'était dur. Je me suis dit, pourquoi j'ai fait ce choix? Ça ne va pas du tout me correspondre. Pourquoi on a ces relations-là? Ça ne sert à rien. Puis après, je pense que c'est mon ego. Mon ego de me dire, non mais attends, tu n'as pas échoué quand même là. Tu as pris le poste, tu le tiens ma grande. Donc c'est dur, on s'en fout, tu tiens bon. J'ai dû apprendre assez vite parce que c'est des métiers qui sont très techniques, la négo face à la grande distribution. Il y a quand même beaucoup de maths. On soupçonne pas, mais il y a pas mal de calculs.
Cette technique, justement, parce que quand tu dis maths, c'est qu'il y a beaucoup de calculs liés à la rentabilité, au prix, aux marges, et il faut calculer très vite parce qu'en face, évidemment, ils calculent très vite et que le moindre... écart de quelques centimes sur des volumes monstrueux peut être fatal pour une marque, en fait.
Exactement. Et donc, il y a plein de mots techniques aussi. Hein, donc, je ne vais pas te les citer là, ça va être pénible pour tout le monde. Mais il y a plein de termes techniques que j'ignorais totalement. Hein, donc, ne serait-ce qu'un truc qui s'appelle la descente tarifaire. Qui est
inconnu pour le commun des mortels.
Qui est complètement inconnu, dont moi, hein, quand j'ai débarqué. Et pour autant, qui est complètement central dans la négociation. Donc voilà, j'ai dû apprendre vite. Et en fait, je pense que c'est mon ego qui m'a fait dire, attends,
je me laisserai pas faire.
Tu n'as pas baissé les bras, voilà. Et face à l'agressivité de certains profils en négociation, je pense bizarrement, parce que les gens te disent « mais comment tu acceptes qu'on te parle comme ça ?» Ben parce que mon ego n'est pas là. Mon ego est de me dire « quel que soit ton comportement, ma grande, moi, je lâche pas l'affaire de ce pourquoi je suis venue négocier aujourd'hui et tu ne me déstabiliseras pas. » Et du coup, mon ego, je pense, m'a... pourtant, d'habitude, je sais quoi faire avec mon ego, je pense pas qu'il domine ma vie, mais là, il m'a un peu sauvée de me dire « intellectuellement, tu vas y arriver, il n'y a pas de raison. Et relationnellement, bah, apprends. Et ton ego, c'est quoi que vous pensiez de moi, même si vous pensez que... » Parce que, évidemment, beaucoup de clients te testent au début en disant « qu'est-ce qu'il vient foutre au commercial, cette marketeuse, renvoyez-la d'où elle vient. » D'ailleurs, c'est un client qui a même écrit ça à ma chef en disant « moi, je veux un vrai commercial sur le poste, j'ai pas du tout envie de parler à cette greluche, c'est ses vrais mots. » Et en fait, mon ego m'a fait dire « non, je lâcherai pas. » Et vous ne me déstabiliserez pas.
Donc ça, c'est intéressant parce qu'on va rentrer tout à l'heure vraiment dans le cœur de la négo. C'est ce qu'on appelle favoriser le fond au détriment de la forme, finalement.
Ah oui, ben c'est là, ça. J'ai appris la souplesse relationnelle. Ouais,
la souplesse,
tu vois.
Position basse.
Ouais, exactement. Et de se dire, en fait, voilà, on part à la guerre. Et donc, dans les compromis, on fait la forme. Donc, on va rester très souple. On va accepter quand même des discussions très tendues qui, dans la vie perso, seraient inacceptables, évidemment. Ou dans ta vie pro, côté interne, avec ta hiérarchie. Ce serait hors de question qu'on te parle comme ça. Mais là, c'est un autre univers. Et du coup, ça permet de développer énormément de choses d'un point de vue relationnel. Enfin, je crois que j'ai vraiment compris la difficulté de la relation en passant au commercial. Et du coup, après, j'ai évolué dans ces postes-là.
Ouais, tu as le sentiment avec le recul que finalement, ces années-là, parce que finalement, tu nous disais, je suis restée longtemps, tu vois, tu t'es vraiment épaissie, tu as mûri et que ça t'a vraiment donné des clés pour la suite sur d'autres postes vraiment très négo. C'est ce sentiment-là.
Ah, ben carrément. Carrément, ouais. Mais pro et perso, tu vois, sur la gestion du conflit, sur tenir bon, sur savoir dire non, sur savoir dire non sans abîmer la relation, parce que c'est un client qui pèse vite entre 15 et 20% de ton chiffre d'affaires. Donc, se fâcher avec lui, ça va vite se voir dans l'entreprise. Donc, ça a débloqué plein de choses sur la gestion de conflits professionnels, parce qu'on est souvent en conflit au bureau, on n'est pas d'accord, on a des enjeux différents. Et perso, ouais.
Et donc là, donc prise de poste, baptême du feu. Et à quel moment tu te dis, finalement, le commercial, c'est fait pour moi? Comment je réorganise la suite? Puisque tu nous as dit, moi, je voulais être directrice monde en marketing. Bon, raté. Et tu vois, comment se fait le changement de cap intérieur et concrètement?
Ben, en fait, je me suis dit que comme tout était nouveau, c'est là que j'avais à apprendre. Et dans mes drivers, j'ai besoin de nouveautés, j'ai besoin d'être challengée. Et bon, évidemment, il y avait encore des millions de choses à apprendre en marketing, mais en tout cas, au commerce, il y avait tout à apprendre. Et du coup, ça m'a motivée de me dire, tu peux pas faire une vie professionnelle en ignorant autant de choses de l'entreprise. Et donc, ça m'a motivée à rester là, à apprendre. Apprendre des autres, à comprendre les commerciaux. J'ai adoré, du coup, les commerciaux que je prenais vraiment de haut avant au marketing. J'ai adoré leur métier, j'ai compris la difficulté, j'ai compris ce qu'ils m'avaient dit pendant des années au marketing en me disant, mais de quoi ils parlent? Ils comprennent rien. En fait, si, ils avaient raison. Donc, voilà, c'est cet univers de découverte sur des techniques de négo, sur
l'exigence aussi, parce
sur
que c'est
l'exigence,
des métiers difficiles.
Sur les relations humaines. On n'avait pas du tout ces relations avec les boîtes avec lesquelles je bossais en étant marketing. Et voilà, ça m'a donné envie de continuer. Et après, toujours les bonnes phrases de certains qui m'avaient dit, tu sais, au marketing, on vieillit, c'est rare d'avoir un vieux directeur marketing, alors qu'au commerce, plus t'es vieux, plus t'as d'expérience, plus ça compte. Donc maintenant, il faut que tu penses un peu à la suite. Et je me suis dit, c'est vrai que c'est pas idiot d'aller dans un métier où plus tu as d'expérience, plus tu te bonifies.
Et ça, tu l'as constaté, plus tu as de l'expérience, plus tu te bonifies, tu es meilleur dans le job?
Alors écoute, quand même oui, ça te patine vachement sur l'appétence au conflit, sur la gestion de la relation, sur la souplesse, sur la panique. Tu vois, le premier rendez-vous que j'ai fait où l'acheteur était très agressif, je suis restée bouche bée. Tu vois, je me suis dit, mais c'est-à-dire, quand le mec s'énerve, on fait quoi? On part en courant, on crie, on pleure. Voilà, et puis quand ça fait 200 fois qu'il te fait le coup, autant te dire que tu notes la prestation artistique du gars. Donc, bien sûr. Après, l'expérience, tu vois, pour le vivre aujourd'hui dans mon métier, vraiment, ça dépend de ce que tu en fais de ton expérience. Mmh. Parce que j'ai vu aussi des gens qui m'ont dit, mais moi, ça fait 20 ans que je fais pareil, et puis point barre. Ben non, parce que les temps changent, vos interlocuteurs changent, et puis ce qui marche avec quelqu'un le mardi ne marche plus avec une autre personne le mercredi. Donc l'expérience bonifie si tu gardes l'humilité de te dire... Au cours de l'expérience, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai foiré, m'a appris des choses, et puis aussi qu'est-ce que je ne garde pas, parce qu'il faut aussi un peu de résilience, de dire si je prenais vraiment tous les feedbacks négatifs qu'on m'a fait quand j'ai pris mon poste au commerce, j'aurais pas continué longtemps. Mmh. Un peu comme Jean-Jacques Goldman, s'il avait écouté toutes les critiques musicales quand il a commencé, il aurait fait 6 mois de carrière.
Oui. Donc là, c'est chez Marie, découverte de la négo, et comment ça évolue après pour toi sur ce métier-là?
Écoute, après, chez Marie, on a été racheté par une autre boîte dans laquelle je me projetais moins. Du coup, j'ai commencé à regarder ailleurs et j'ai pris un poste dans une autre boîte, chez Kronenbourg, qui appartient au groupe Carlsberg. Et là, j'ai commencé à manager maintenant au commercial. Donc, j'ai encadré ensuite des comptes clés, j'ai rencontré ce qu'on appelle des... catégorie manager, c'est un peu le marketing face aux clients. Mmh. Et donc là, j'ai fait du management au commercial. Et c'était des très chouettes années, c'était des négos assez tendus, assez difficiles, parce que Kronenbourg, c'est un gros groupe entre guillemets, enfin, en tout cas c'est pas une TPE pour les clients, donc c'était assez tendu.
Et puis c'est les grosses marques connues, voilà. Le groupe Carlsberg, c'est peut-être moins connu que les marques en question dont tu t'occupais.
1664, Grimbergen, Skoll, Tuborg, Ecro. Donc oui, voilà, là une boîte très structurée sur le commerce qui m'a beaucoup appris. Des équipes avec lesquelles on est parti à la guerre aussi et le réseau, commençait à développer mon réseau sur d'autres boîtes, parce que c'est des métiers où on avance en réseau. Alors évidemment pas avec nos concurrents, hein, ça c'est la loi qui l'interdit, mais avec d'autres entreprises. Donc c'est là que j'ai commencé à développer de plus en plus mon réseau externe.
Alors moi, j'ai envie de revenir quand tu dis, tu parles beaucoup des équipes, j'ai adoré, on a fait la guerre ensemble. Alors raconte-nous, qu'est-ce qui se passe dans ces équipes de commerciaux, justement, que toi qui t'ont marqué, que t'as emporté avec toi aujourd'hui?
Écoute, la solidarité, tu vois, parce que la relation face au client, elle est quand même dure. Mmh. Les négociations, c'est pas évident. Il y a des menaces, il y a des ultimatums qui sont faits. Le rapport de force, il est quand même favorable aux distributeurs. Donc, tu pars en rendez-vous, c'est chaud, quoi.
Tu vas te faire manger.
Exactement. Et du coup, c'est de préparer cette bataille ensemble, de tenir bon. Quand on s'est fait malmener en clientèle, c'est hyper important de revenir au bureau et que tout le monde te soutienne, soit derrière toi. Mmh. Donc, des fois, il faut que ça soit partagé par la hiérarchie. C'est pas toujours évident. Mais en tout cas, dans les équipes, une vraie solidarité. Et quand tu pars en rendez-vous, moi, j'avais ma chanson de guerre, de Muse, tu vois, dans ma voiture. Et quand je partais en rendez-vous, je me revois dans ma voiture partir en rendez-vous chez Carrefour avec cette chanson de Muse, They will not force us, we will be victorious, tu vois. Et donc, énorme shoot d'adrénaline. Souvent, j'en parle des fois avec des pompiers ou, tu vois, dans l'équipe chez ADN, on a des gens du raid et on a cette même adrénaline de partir un peu au combat, quoi.
Et ça, pour aujourd'hui, toi, t'en as retenu quoi? Quels sont les apprentissages dans ce que tu fais aujourd'hui de cette période-là, de cette vie en équipe-là?
Je pense une appétence au conflit. Maintenant, tu vois, chez ADN, quand on doit accompagner des négociations, plus on est dans une situation complexe et plus ça me fait vibrer quelque part. Donc, d'ailleurs, on est un peu tous dans le même cas dans l'équipe. Hein, on dit, voilà, j'ai une négo, regardez, ça a l'air carrément perdu d'avance et tout le monde dit « Oh, trop bien !»
Donc, c'est bon signe.
Ouais, voilà. Donc, c'est une appétence un peu au conflit, à l'incertitude, beaucoup d'agilité. Ça m'a vraiment permis de développer ça. Puis aussi, gérer mes émotions, carrément. Parce qu'il y a certains rendez-vous où tu te serais bien levé en plantant un critérium dans l'œil de ton interlocuteur. Bon, c'est pas une bonne idée de faire ça en relation commerciale. Mais du coup, ça m'a permis de gérer mes émotions, à la fois la colère, parfois, la tristesse. Quand tu n'as pas réussi un rendez-vous, tu rentres au bureau et tu vas devoir dire qu'on n'a pas gagné ça, c'est pas évident. Et le stress, carrément.
Oui, gros sujet dans ces jobs-là, surtout avec les évolutions de ces métiers. Alors, comment on fait pour gérer son stress?
Écoute, je pense que, un, il faut l'accepter. Alors, il y a vraiment quelque chose que j'arrive beaucoup mieux à faire avec l'âge, probablement. C'est déjà ne pas lutter contre le stress. Donc, de manière générale, bon, on n'est pas tous égaux. Le stress, chez moi, a toujours été plutôt moteur. C'est pour ça que j'ai fait des classes prépa, parce qu'en fac, j'aurais jamais bossé. Sans stress, j'aurais bossé la veille des partiels, ce qui n'était pas une bonne idée. Donc, le stress est quand même moteur chez moi. Mais après, il ne faut pas qu'ils soient en stress dépassé et handicapant. Et donc, j'accepte beaucoup le stress. Tu vois, il y a des choses avec l'âge que j'arrive vraiment mieux à faire. C'est de me dire, par exemple, cette semaine, j'ai eu une interview avec un journaliste, tu vois, qui doit me filmer. Et donc, c'est quand même stressant parce que tu dis, il ne faut pas que je dérape, il ne faut pas que je dise un mot à côté, il faut que je parle distinctement, il faut que j'explique un métier très technique de négo face à la grande distribution pour des gens qui ne connaissent pas ce métier. Donc, il faut que je reste pédagogue. Donc, c'est quand même stressant. Et avant, je me serais dit, ne te stresse pas, ce qui, évidemment, ne sert à rien, voire à te stresser encore plus. Et donc, je me dis, voilà, demain, tu as cette interview, ce sera lundi soir, on est dimanche soir, tu as le droit de stresser, Sylvia, mais ce n'est pas maintenant. Parce que si tu commences à stresser à maintenant, tu brûles du gaz. Et tu vois, dans l'équipe, on a un préparateur mental qui m'a beaucoup aidé à travailler là-dessus et de me dire, voilà, ne brûle pas du gaz maintenant parce que du gaz, tu vas en brûler. Tu ne pourras pas faire autrement qu'être stressé une heure avant l'interview. Donc, garde-toi des ressources. Là, on est dimanche soir, c'est pas maintenant. Tu as le droit de stresser, mais pas maintenant. Tu stresseras exactement, je te dis quand tu prendras ton taxi pour aller à cette interview. Là, tu auras le droit d'être en panique, mais pas maintenant. Et ça, avec l'âge, j'arrive beaucoup mieux à dormir sereinement parce que je sais que j'ai le droit de stresser. Ce qui est beaucoup plus rassurant que de me dire « ne te stresse pas, ça va bien se passer ». Et tu vois, quand tu es en stress et en panique, bon, c'est connu, hein, c'est l'amygdale dans le cerveau. Mais quand les gens te disent « mais ça va le faire, ne te stresse pas », mais rien de pire, ça sert vraiment à rien. Arrêtez de dire ça.
On rejette l'émotion de celui qui panique, justement.
Exactement. Et donc, ça m'a appris ça, de me laisser des temps pour stresser et d'autres pour ne pas brûler du gaz. Et après, de récupérer aussi, d'avoir le droit de se dire qu'en sortant de là, on a envie de boire un mojito,
de décompresser,
d'appeler une copine, d'aller faire du sport, peu importe, mais se laisser un petit sas quand même. Ouais.
Un temps pour tout.
Ouais.
Donc là, on finit l'expérience encadrement de négociateur chez Kronenbourg.
Ouais.
Et ensuite, avant d'arriver chez ADN.
Eh bien, écoute, après une expérience incroyable chez Nespresso, où j'ai eu le poste, en gros j'étais directrice commerciale sur la partie B2B, donc j'avais une équipe très large, quand je suis arrivée à peu près 50-60 personnes, et très vite 120, donc j'ai doublé mon équipe, ça veut dire que j'en ai recruté la moitié,
beaucoup,
sur mes critères qui me ressemblaient, que j'ai choisi. Et honnêtement, ça a été un énorme kiff de management cette période-là. J'encadrais une équipe, j'avais vraiment de la chance, jeune, motivée, engagée, passionnée pour la plupart par le café, par la marque. On générait beaucoup de croissance. Donc mon job, c'était d'organiser la croissance, de recruter, de développer. Il y avait beaucoup de gens qui avaient du talent, qui avaient du potentiel de croissance. J'ai adoré cette période en management. Ouais.
Et suite et fin de ta carrière dans les entreprises pour basculer chez ADN après l'expérience Nespresso, finalement.
Exactement. Écoute, c'est Marwan qui m'a fait rentrer sans trop que je m'en aperçoive chez ADN. Je me rappelle une fois, il m'a dit, tu sais, j'ai créé cette boîte et donc je connais Marwan depuis pas mal d'années. Est-ce que ça te dit de faire un fond de salle pour voir la formation que je fais, notamment en détection aux mensonges? J'ai dit, mais carrément, ça doit être passionnant. Donc, je pose en RTT, puis je fais un fond de salle pour écouter son module, qui était passionnant. Et puis, il continue, il me dit, voilà, maintenant, dans 3 mois, je dois accompagner un groupe, ils sont très nombreux, est-ce que tu veux bien m'assister? Oh, ben oui. Donc, je pose un autre RTT pour aller faire ce groupe des exercices de négociation. Et puis, ça continue un peu. Puis, il me dit, voilà, j'ai un petit empêchement pour un groupe de formation. Est-ce que tu peux me remplacer le J1, le premier jour? Bon, alors ça, énorme pression. Mais j'ai dit oui. Et donc, j'ai posé un RTT pour le faire. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fini par faire des formations pour ADN. Puis des assistances. Donc, à l'époque, j'étais chez Kronenbourg, puis chez Nespresso. Et puis après, j'avais de plus en plus d'assistances, de demandes, de formations chez ADN. Et on a dîné ensemble un soir avec Marwan, je m'en rappelle très bien, c'était en décembre. Et il me dit, t'es sûr que tu veux pas rejoindre l'équipe 100% ADN? Et on a parlé de tout ce soir-là. Et puis, à la fin de la soirée, c'était très clair pour moi. Je me suis dit, allez hop, je me lance. Je sors du monde de l'entreprise. Je sors de mon plan de carrière. Hein, parce que tu vois, mine de rien, je tenais mon petit fil rouge. Là, j'avais marketing, commerce. Et donc là, je crée ma boîte. Donc, je viens indépendante pour bosser pour ADN.
Et donc ADN, on reboucle, la boucle se boucle, puisque tu nous disais, donc tu as une casquette vraiment où tu interviens au quotidien chez nos clients. Et ça, aujourd'hui, toi, qu'est-ce qui te plaît dans cette partie-là du boulot? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce que tu retiens de ce...
Écoute, il y a deux choses. C'est que ça continue à nourrir mon besoin d'innovation parce que tous les deux jours, je suis projetée dans une entreprise où globalement, je ne connais rien. Donc, je ne connais pas les gens, je ne connais pas leur métier, je ne connais pas leur secteur d'activité. Tu vois, j'ai même préparé une négo au Congo sur des négociations sociales dans le pétrole. Tu vois, donc là, vraiment, à des années-lumière de mon univers. Et donc, c'est stressant parce que en très peu de temps, il faut que tu comprennes quand même les enjeux, le métier, voilà, un peu la culture aussi parfois. Mais du coup, c'est passionnant. Tous les deux jours, je découvre un secteur d'activité. D'ailleurs, moi qui ai passé beaucoup de temps dans la grande distribution, je me suis rendu compte du nombre de secteurs d'activité que j'ignorais. Je pensais que le monde était fait de la grande distribution. Ouais. Donc ça, c'est passionnant. Et l'autre côté passionnant, c'est que... c'est très gratifiant de passer une journée avec des équipes et à la fin qu'ils vous disent soit en formation « Ah mais ça nous aide, ça nous donne vachement d'outils, de choses qu'on n'avait pas, merci » ou en assistance où les gens nous disent « Ah mais cet éclairage, il nous a beaucoup apporté » et ça c'est très gratifiant au quotidien.
Ça récompense finalement ces petites poussées d'adrénaline à droite, à gauche. Et sur les deux autres casquettes, donc il y a toute cette dimension commerciale aujourd'hui, gérée avec tous les clients d'ADN Group, et puis la dimension expert. Alors là, finalement, on retrouve un peu ton ADN à toi, c'est-à-dire à la fois l'expertise métier et puis l'expertise de manager.
C'est un autre type de management. Évidemment, ils ne dépendent pas de moi hiérarchiquement. Hein. Donc, mais alors, c'est passionnant parce que les gens que j'ai la chance d'accompagner chez ADN, ils ont tous des backgrounds incroyables. Tu vois, donc, dans nos profils, on a une négociatrice du RAID, un diplomate, un pilote, commandant de bord. On a un ancien du RAID, on a des directeurs. Commerciale, on a tout tas de profils qui sont passionnants, pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration. Et eux, en même temps, ils sont très humbles parce que parfois, ils découvrent le monde de l'entreprise et donc ils sont très avides aussi de conseils que je pourrais leur donner sur, non pas leur métier et leurs compétences, mais sur comment s'adapter aux clients, à l'entreprise dans laquelle ils vont aller. Et du coup, je pense qu'on se nourrit un peu mutuellement.
Et comment on trouve la clé pour faire marcher tout ce petit monde qui, j'imagine, a des drivers, des motivations différentes, un parcours, un quotidien aussi d'ailleurs différent ?
Je pense qu'on a une écoute réciproque, souvent une admiration réciproque, enfin, sans évidemment me jeter des fleurs, mais des fois ils sont contents des éclairages que je peux leur apporter. Donc c'est beaucoup d'écoute, beaucoup de respect. On a des valeurs chez ADN qui sont extrêmement fortes, dont la première qui est la confiance dans l'équipe. Et vraiment, on a confiance les uns envers les autres. De la proximité aussi, c'est le commerce qui m'a appris ça. Quand on veut être proche des gens, on sait que demain, ils ont leur première formation. On sait leur envoyer un petit message de bon courage. On les a peut-être appelés la veille au soir. Il y en a pas mal dans l'équipe qui doivent se reconnaître. Ou petit coup de panique pour son premier jour de formation chez ADN. Et ben, on s'appelle, ça se trouve à 22h, c'est pas grave. Mais on se dit pourquoi on est stressé, quelles sont les clés, quels sont les premiers trucs que je vais faire demain en arrivant. Et donc voilà, c'est cette proximité, cette écoute et beaucoup de confiance dans la relation.
Du coup, Sylvia, tu vois, si tu te retournes là sur tout ce long chemin de la petite Sylvia qui voulait être directrice monde à la vice-présidente ADN aujourd'hui, qu'est-ce que tu en retiens pour toi ?
Dans mes études, on m'a formatée pour avoir un projet professionnel à 10 ans, 20 ans, tu vois. Et en fait, j'en retiens que surtout pas. Que finalement, mon parcours, il a été fait de rencontres. Tu vois, j'étais partie pour être ingénieure et finalement, j'ai rencontré le marketing que j'adorais. J'étais partie pour faire un mini stage au commerce vite fait et j'ai adoré, j'ai plus jamais retourné au marketing. J'avais un parcours en CDI dans des grands groupes et finalement je suis maintenant à mon compte, j'étais auto-entrepreneur. Et finalement, je crois que c'est le message que j'essaye de transmettre à mes enfants aussi. Bien sûr, faites des études qui vous ouvrent un maximum de portes et qui vous correspondent hein, aussi. On n'est pas là pour faire des choses qui nous déplaisent. Mais aussi, laissez-vous la vie vous surprendre avec des rencontres, avec des surprises, avec des fois des petits pieds que tu te prends dans le tapis quand même. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça a construit? Et franchement, je regrette rien. Au contraire, tu vois, je suis contente des choses que m'ont appris la vie, pro ou perso, des bons et des moments un peu plus durs, mais qui ont construit des amitiés, qui ont construit chez moi de la force, qui ont construit chez moi de la résilience. Non, je regrette rien.
Donc on en revient quand on t'écoute à voilà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Comment on fait intérieurement pour transformer ces petites embûches comme ça en des choses qui nous rendent fortes? Tu vois, comment on sait qu'on se trompe pas? Comment on sait que c'est pas le truc de trop qui...
En tout cas, moi, ce qui va beaucoup m'aider, c'est les autres, tu vois. Sartre disait, l'enfer, c'est les autres. Moi, l'enfer, c'est sans les autres. Et donc, je me nourris beaucoup de ça. J'ai fêté récemment un cap, mais 45 ans, tu vois, je vieillis. Et en fait... Pendant mon anniversaire, parce qu'évidemment, j'ai organisé une soirée pour ça, puisque je vis avec les autres, je regardais les personnes qui étaient là et je me dis, oui, on vieillit, donc c'est sûr que il nous reste moins de temps devant nous. C'est ça qui est triste, parce que sinon, de vieillir en soi, c'est pas très gênant. Mais je voyais toutes ces personnes-là et avec chacune, j'ai une histoire. J'ai une histoire des fois où on a pleuré dans les bras, j'ai une histoire où on a pleuré de rire, et d'ailleurs beaucoup plus souvent, hein, heureusement. Et je me dis, mais tout le monde vieillit avec moi. Et c'est ma grand-mère qui me disait ça. Des fois, je lui disais, mais comment tu vis le fait de vieillir? Elle dit, mais t'imagines, si je vieillis pas, je vais vivre avec qui? Tous mes amis vieillissent. Et je me dis, mais c'est vrai. Et donc, je me dis, voilà, toutes ces expériences, je les ai vécues avec des gens. D'ailleurs, j'ai gardé des amis de chaque boîte dans lesquelles j'ai bossé, mes managers, comme mes collaborateurs, comme mes collègues. Et chacun a une histoire, et avec chacun, les retrouver, c'est un bonheur aussi. Et donc, c'est des souvenirs, et c'est ça qui nous reste après, c'est les souvenirs.
C'est ça qui nous reste, c'est juste. Tu nous parlais aussi, finalement, de tout ce que porte ADN aujourd'hui et de toute la croissance et de tout le développement que connaît la marque. Comment ça se traduit, toi, dans ton quotidien, d'un point de vue commercial ou relation client plutôt que commercial, parce qu'il y a plutôt un lien très riche humainement avec les clients d'ADN, tu vois? Quel regard tu portes là-dessus, toi?
C'est des clients qui souvent me touchent parce qu'ils vont nous appeler pour partager une problématique qu'ils ont de prise de décision qu'ils ont du mal à prendre, de négociations trop dures pour eux, ou de dysfonctionnement au sein de l'équipe, ou de managers en souffrance. Et en très peu de temps, finalement, ils sont très transparents sur leurs difficultés, un peu comme si on était des confidents, tu vois. Donc ça me touche à chaque fois. Et puis après, moi, je vais choisir l'expert qui est le plus à même de mener la mission. Après, évidemment, je fais un retour d'expérience du client, parce que ce qu'on se disait tout à l'heure, l'important, c'est de grandir. Donc des fois, on doit rectifier le tir. Et après, c'est des clients qui te rappellent pour te donner des nouvelles. C'est des clients qui te rappellent parce qu'ils ont d'autres projets, qui sont contents de les mener avec toi. Et donc, c'est une vraie relation qu'on a. Tu vois, là, on va fêter nos 10 ans chez ADN et on va inviter pas mal de clients qu'on connaît depuis très longtemps. Et c'est pareil, c'est finalement un peu comme les collègues dont je te parlais tout à l'heure. C'est des clients qu'on revoit, qu'on voit grandir. C'est des, là je pense à une boîte en particulier, c'est une petite structure, on a connu au début, c'était juste un projet, une start-up, et puis maintenant ça va se lancer, ça y est, sur le marché. Et donc ça nous arrive souvent, des difficultés dans des équipes qui ne fonctionnaient pas ensemble, et finalement maintenant ça fonctionne. Et puis il y a d'autres problèmes qui arriveront, bien entendu, mais des gestions de crise qu'on a accompagnées. Et donc c'est cette relation qu'on construit avec des clients qui ensuite vont changer d'entreprise et qui nous rappellent quand même en disant j'ai envie de déployer dans ma nouvelle boîte ce qu'on a fait ensemble. Donc voilà, c'est là aussi une équipe qu'on forme avec nos clients. Des fois, pour rigoler entre nous, on s'appelle un peu l'agence touriste, tu sais. Les clients nous appellent en disant là c'est vraiment la catastrophe, venez. donc sur des négos, sur des gestions de crise, sur des équipes qui ne travaillent plus ensemble. Donc ça, ça nous gratifie vraiment de sortir de là en disant, voilà, on leur a apporté quelque chose. Et puis après, des séminaires qu'on organise où là, on est vraiment un peu plus festif sur de la cohésion d'équipe. Donc c'est cette relation qui est chouette aussi.
Donc toujours l'humain finalement au cœur de tout, en fait, on y revient. On s'approche de la fin de notre rencontre. Si tu devais faire passer un message à ceux qui nous écoutent sur ta trajectoire à toi, le parcours, les aspirations que tu peux avoir aujourd'hui, ce serait quoi ?
Les gens. Ce serait la relation, c'est de se dire finalement face au stress, face à la difficulté. Il y a parfois des gens qui te déçoivent, qui vont retourner leur veste ou en tout cas en tirer profit, etc. Et puis il y a des gens que tu découvres, qui t'aident, qui ont une force que tu n'avais pas, qui ont une compétence que tu n'avais pas, des clients qui t'apprennent. Des fois, les claques que je me suis prises un peu relationnelles face à des clients de la grande distrie, ils ont développé des forces chez moi. Avant de me déstabiliser, il faut se lever tôt, tu vois. Donc, c'est pour ça que je me dis, voilà, le conseil, c'est de se dire, chaque expérience de vie, tu peux en tirer quelque chose, c'est sûr. Même si certaines t'abîment un peu, parce que je ne crois pas que tout ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Non, il y a des choses qui te laissent des faiblesses, qui te laissent des failles. Mais peut-être que sur ces failles, qui peut t'aider ? Peut-être pas les gens que tu pensais au départ, et des gens qui vont être là, qui vont être fascinants pour te porter secours à des moments où tu ne les attendais pas. Et qu'est-ce que tu as récupéré de ça ? Et la deuxième chose, c'est que tout ce que tu apprends, même les claques que tu te prends, c'est ce que tu peux transmettre après. Et je crois que ça fait partie aussi des choses finalement qui sont importantes pour moi, transmettre. Sinon, je ne ferais pas de la formation. C'est transmettre à des équipes, des savoirs que je peux avoir, qu'ils n'ont pas parfois. Puis transmettre aussi à mes enfants, tu vois, de me dire, si j'ai vécu des moments difficiles dans ma vie, tant mieux. C'est ça, je vais pouvoir les accompagner, je vais pouvoir les prévenir, même si tu imagines bien qu'ils ne m'écouteront pas, mais au moins je serai là s'ils ne m'ont pas écouté et que ça ne va pas quand même, je saurai. Pour mes amis aussi, de me dire si j'ai vécu des moments pas faciles, c'est ça à leur faire partager. Donc finalement, si j'ai un conseil, c'est prenez la vie à pleines dents, à pleine bouche, à pleine main, je ne sais pas, mais profitez vraiment de chaque expérience et des relations humaines que ça a nouées, que ça peut vous apporter et qui vous construisent et qui font que peut-être quand vous serez très vieux que vous vous retournerez, puisque c'était ta question de tout à l'heure, la route sera jolie.
Merci Sylvia Bravard pour ces jolis mots.
Merci à toi, beaucoup. Julie. Merci.
En écoutant Sylvia, on se dit que le chemin peut être différent de celui auquel nous avions pensé, mais tout aussi joli. Les embûches, les pieds dans le tapis, les défaites, tout ça finalement n'est pas si important tant que cela nous permet d'avancer et de grandir. Merci Sylvia pour cet échange lumineux. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur les plateformes d'écoute, ça nous aide beaucoup. Je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode d'ADN Stories le mois prochain. En attendant, portez-vous bien et retrouvez toute notre actualité sur notre site www.adngroup.com.